Bonjour à tous. Nous voici déjà, parce que la semaine a passé vite, rendus au septième jour de la fête des pains sans levain. Septième jour de la fête des pains sans levain. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Victoire et entrée dans le repos de Dieu. J'ai choisi un titre, vous allez voir avec le message, qui donne vraiment la signification du jour qu'on célèbre aujourd'hui. Reportez-vous pour un premier verset, s'il vous plaît, à Romains, le chapitre 8. Avant d'être appelé par Dieu à connaître la vérité, quand il nous a appelés, il nous a révélé la vérité, avant de recevoir son aide, c'est-à-dire son Saint-Esprit, pour commencer à vivre selon ses lois, qu'est-ce qu'on faisait pour tenter d'être heureux? On utilisait la méthode que j'appelle strictement humaine et qui consiste à procéder par essais et erreurs. On essayait des choses, hein? On n'avait pas de ligne directrice pour vraiment nous aider. Mais quand le Père attire quelqu'un au Christ, il met un peu de son Saint-Esprit, de sa puissance, avec la personne pour que cette personne-là commence à comprendre un petit peu les choses spirituelles et commence à vouloir changer des choses dans sa vie. Plus tard, quand la personne est baptisée, Dieu met son Saint-Esprit dans la personne pour qu'elle soit capable de progresser spirituellement et d'éliminer davantage le mal de sa vie en vivant selon les lois de Dieu. Et ça, bien sûr, ça implique des décisions, des choix pour aller vers le grand but que Dieu a pour vous et pour moi, la vie éternelle. Bon, voilà le résumé de la situation. Regardez ce que Romains 8 nous dit au verset 13. Et ici, on entre dans le sens de la fête des pains sans levain, dont nous célébrons le septième jour en ce moment. Paul écrit ceci, « Si vous vivez selon la chair, ce qu'on faisait avant de connaître Dieu, on vivait comme on pensait, on essayait toutes sortes de choses pour être heureux. Si vous vivez selon la chair, en transgressant les lois de Dieu, vous mourrez. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais si, par l'Esprit de Dieu, par sa puissance, vous faites mourir les actions du corps, donc vous changez, vous éliminez le mal de votre vie, vous vivrez. C'est pas juste la vie physique, là. C'est que vous serez orienté vers la vie éternelle que Dieu a en réserve pour nous. Et regardez le verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il nous appelle à rien de moins que ça, à devenir ses enfants. Son fils de Dieu, ceux qui se laissent guider par son Saint-Esprit pour avoir un raisonnement plus juste, plus sain, pour maîtriser nos émotions, pour avoir la force et le courage nécessaire d'être différent des gens autour de nous. Parce que quand on commence à vivre selon les lois de Dieu, on devient différent des gens autour. Notre rôle dans tout ça, c'est de nous appliquer, pas seul, parce que seul on est incapable, de nous appliquer avec son aide à rejeter de plus en plus toute forme de mal de nos vies, toute forme de transgression de ses lois, à vaincre nos faiblesses, pour un jour entrer dans le grand but de vie éternelle qu'il nous a donné, dans la terre promise spirituelle, dans son royaume, dans l'immortalité de la famille de Dieu, où on deviendra à ce moment-là ses enfants à part entière. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le sermon, un petit peu différent d'habitude, on va prendre un livre dans la Bible qu'on va vérifier, qu'on va regarder. On va faire un survol du livre de Josué. Vous pouvez vous y reporter, Josué, chapitre 1. On va faire un survol du livre de Josué. Ça, c'est un livre où on voit qu'Israël a livré combat. Et c'est un livre de conquête, c'est un livre de victoire, ce à quoi nous sommes appelés. Un livre de conquête, de victoire pour Israël, par la puissance de Dieu, lors de son entrée en terre promise. Physique. Okay? Et vous allez voir les parallèles extraordinaires et encourageants qu'il y a avec nous aujourd'hui. Parce que nous, on a à aller vers la terre promise spirituelle. On a allé vers ça et on a plusieurs combats à mener pour y arriver. Mais c'est le même principe qu'on va voir que ce qu'ils ont fait, eux, avec l'aide du Christ qui les a aidés. Josué, chapitre 1. Alors, Josué, dans le fond, a conduit les Israélites en terre promise physique, à un repos physique. Et Jésus, lui, aujourd'hui, nous amène dans des conquêtes, une après l'autre, par sa puissance, vers la conquête finale, pour qu'on puisse naître dans la famille de Dieu, entrer dans le repos éternel, dans le repos spirituel. C'est intéressant parce que Josué et Jésus, c'est le même nom. En hébreu, c'est Joshua, et ça veut dire sauveur. Comme Josué a été utilisé par Dieu comme élément pour sauver Israël, lui permettre d'entrer en terre promise. Alors le Christ fait la même chose aujourd'hui avec ceux qu'il a choisis, parmi tous ceux que Dieu a appelés, pour les amener au but, à la terre promise spirituelle. Alors, on va apprendre des leçons précieuses aujourd'hui, vous allez voir. Et on va voir quelques points essentiels à retenir puis à pratiquer pour remporter nos victoires, pour être capable d'aller vers la grande victoire finale. Josué, chapitre 1, verset 1. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » J'arrête ici. « Que je donne. » Ils ne l'ont pas pris. Dieu leur a donné. Il a fallu qu'ils fassent des efforts, mais Dieu leur a donné. Il dit « Je vous donnerai la victoire pour que vous jouissiez du repos dans ce bon pays. » Après que vous l'aurez conquis, parce qu'il y aura des batailles à livrer, il y aura un travail à faire. Et au bout de quelques brèves années, vous allez être en repos dans le pays que je vous donne. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps après, parce qu'après qu'ils ont conquis le pays, ils ont eu du repos pendant un certain temps, et là, Israël est retourné à ses anciennes divinités, il s'est détourné de Dieu, ils en ont payé le prix. Mais lorsqu'ils sont entrés en terre promise, ils ont mené des combats, selon que Dieu avait dit. Dieu était avec eux. Ils ont remporté toutes les victoires nécessaires pour conquérir le pays, le soumettre, et ils ont connu pendant un certain temps le repos que Dieu leur avait promis en terre promise. Verset 7, même chapitre. « Fortifie-toi seulement, » Dieu dit ça à Josué et à chacun de nous, « fortifie-toi seulement et aie bon courage. » En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, la clé du succès, c'est d'agir selon les lois de Dieu. Il y a des choix à faire, comme je vous disais, mais si on s'applique à les faire, même si on n'est pas parfait, mais si on maintient dans ce sens-là, il dit « je vais vous donner » du succès dans vos entreprises. Et l'entreprise principale qu'il a en tête pour nous, c'est de nous amener à la vie éternelle. Force et courage pour vaincre en agissant selon la loi. Un, ça implique des décisions de notre part, une détermination, et deuxièmement, de toujours demander au Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Le Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible dit clairement, hein, c'est lui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection en nous. Il travaille avec nous pour nous amener à la perfection, ce qu'on n'aura pas tant que le Christ ne sera pas revenu, mais il faudra être en train de travailler vers ça jusqu'à ce moment-là. Et ne nous abandonne jamais, comme il a promis. Regardez le verset 8 encore. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. » C'est pour ça qu'on étudie la Bible chaque jour et qu'on y réfléchit, qu'on le médite. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et plus je mets en pratique les lois de Dieu, plus je suis encouragé d'aller plus loin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Autrement dit, Dieu dit, je te donne tout ce que tu as besoin pour arriver au but. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, quelles que soient les circonstances. Compte sur moi, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais vous, si on s'applique à agir selon les lois de Dieu, il est avec nous dans tout ce qu'on a à faire. Parfois, il va permettre des épreuves, oui, mais pour nous préparer encore davantage à ce qui vient. Mais il est toujours avec nous pour nous délivrer au bon moment, de la bonne façon, selon son plan. Alors, le premier point à retenir pour mettre ça en pratique, pour vaincre, notez ça, agir selon la loi. Agir selon la loi. Et Dieu est avec nous dans ce temps-là. Premier point à retenir de l'expérience de Josué, agir selon la loi. Et à ce moment-là, on est assuré que Dieu est avec nous. Josué, chapitre 2. Pour prendre la terre promise, pour l'obtenir, Israël devait conquérir, en entrant en terre promise, la grande ville fortifiée de Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, ils ont envoyé deux espions qui sont arrivés dans la ville de Jéricho, qui sont allés dans la maison de l'aubergiste Rahab, qui ont été reçus par Rahab. Et regardez ce qui s'est passé. Lisons le verset 10 de Josué 2, première partie du verset 10. Regardez ce que Josué dit aux deux espions lorsqu'elle les a reçus. « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. » Ça faisait pas longtemps que ça s'était produit, ça, qu'Israël avait passé à travers la mer Rouge parce que Dieu avait fait ce grand miracle. Alors, les gens de la région le savaient. Alors, quand les deux espions israélites sont allés à Jéricho, comprenez-vous que les gens de la ville avaient peur et que Rahab savait ce qui pouvait s'en venir? Parce que ces gens-là qui avaient traversé de façon miraculeuse la mer Rouge, qui avait été protégée par Dieu, voilà qui approchait la ville de Jéricho. Elle le savait. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cru ce que Dieu faisait et elle a protégé les envoyés d'Israël tout en leur demandant quand ils feraient l'assaut de la ville de Jéricho, de la protéger, elle et sa famille. Ce qu'ils ont fait, comme on voit plus tard. Josué, chapitre 3. On va aller un petit peu plus loin. Josué, chapitre 3. Ici, les Israélites arrivent face au fleuve le Jourdain. Ils sont pas encore en terre promise, là. Ils sont d'un bord du Jourdain. Il faut qu'ils traversent le Jourdain pour arriver en terre promise. Alors, ils arrivent face au Jourdain, infranchissable. Josué 3, verset 5 et 6. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et il en a fait. Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. On va voir l'histoire. Allons plus loin maintenant au verset 13 du même chapitre. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Miracle impressionnant de Dieu. Regardez le verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sept, au milieu du Jourdain. Alors, vous voyez, les sacrificateurs, une fois que les eaux ont été coupées, sont entrés et lorsqu'ils ont été au milieu du fleuve, ils se sont arrêtés. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. On va voir tout le scénario avec tout ce que ça nous enseigne à nous, qui avons des défis à rencontrer, des combats à mener, mais par la force de Dieu. Et on voit dans ce récit-là que ce que Dieu avait en tête, parce que eux se sont soumis, parce que Josué s'est soumis, ils sont arrivés à terme. Comme nous allons arriver à terme et réussir si nous mettons en pratique ce qu'on va voir aujourd'hui. Josué, chapitre 4, on continue notre survol. Ici, Dieu ordonne aux Israélites d'ériger deux monuments de 12 pierres chacun. Alors, un premier monument qu'ils allaient devoir ériger avec 12 pierres dans l'endroit où ils allaient passer la première nuit en terre promise, ville de Gilgal. Et l'autre monument de 12 pierres devait être bâti au milieu de la rivière. alors que c'était sec. C'est l'ordre que Dieu avait donné. Voyons la suite maintenant. Donc, on est dans Josué chapitre 4. On va lire versets 15 à 19. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Là, voyez-vous, j'ai bâti le sermon pour qu'on voit les événements un après l'autre, qu'on voit le film beaucoup plus clairement. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, comme ça avait fait pour la traversée de la mer Rouge, et se répandirent comme auparavant sur tous les bords. Bon, là on arrive à un autre élément. Verset 19. Le peuple sortit du Jourdain, donc là, ils étaient à l'extérieur. Ils étaient donc en terre promise, ils mettaient le pied en terre promise. Regardez bien, le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho, près de la ville de Jéricho. Maintenant, je vous rappelle ce qu'il vient de dire. Ils ont sorti du Jourdain le dixième jour du premier mois. Vous savez ce qu'ils ont fait ce jour-là? Ils ont choisi l'agneau qu'ils allaient immoler quelques jours plus tard pour prendre la Pâque. Il y a un parallèle en même temps, parce que c'est la fête des pains sans levain pour eux à ce moment-là, comme c'est la fête des pains sans levain pour nous maintenant. Il y a beaucoup de similitudes, de ressemblances et de leçons qu'on peut tirer des deux. Alors là, ils ont choisi l'agneau pascal parce que la Pâque était quelques jours plus tard. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il fallait être circoncis physiquement pour prendre la Pâque. Alors, tout ce beau monde-là qui était là en terre promise n'était pas circoncis. Vous allez voir, on va voir le texte ici. Et il a fallu qu'il le soit pour être capable de prendre la Pâque qui approchait. Josué, chapitre 5 maintenant, on va lire les versets 2 à 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert parce qu'ils avaient refusé d'aller en terre promise, vous vous rappelez, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Donc cette première génération-là qui avait refusé d'aller en terre promise était tous morts au désert. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, leurs enfants, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. Verset 7. Prenez les notes des versets, puis si vous voulez refaire une étude, vous allez pouvoir rebâtir l'histoire que je vous montre et en tirer vraiment profit. Verset 7. Ce sont leurs enfants qui l'établissent à leur place, et Josué les circoncis. Car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Verset 10 maintenant, du même chapitre encore. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, là où ils avaient choisi l'agneau, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Alors voyez-vous, les événements se suivent. Là, ils ont pris la Pâque le 14e jour de ce même mois. Et là, ils étaient en terre promise, mais ils possédaient rien encore. Ils n'avaient pas le contrôle de rien. Ils étaient face à une ville fortifiée considérable. Ils étaient devant la forteresse de Jéricho. Deuxième point à se rappeler, les Israélites devaient être circoncis pour prendre la Pâque et ils devaient être circoncis pour entrer en terre promise, vraiment, pour s'établir en terre promise. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on doit être circoncis de cœur, non pas physiquement. C'est ce qu'on sait par la Bible. Il faut d'abord s'être repenti, avoir passé par les eaux du baptême et enclencher le processus de changement pour vivre selon les lois de Dieu. Et lorsqu'on est baptisé, qu'on s'est repenti, qu'on passe par les eaux du baptême, qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, là, on peut prendre la Pâque parce qu'on est circoncis de cœur. On peut prendre la Pâque et on peut vraiment aller vers notre grand but de recevoir un jour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Verset 11. Là, on voit qu'ils viennent de prendre la Pâque. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Ils mangèrent des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Quel jour, ça? C'est le premier jour des pains sans levain. Ils venaient de prendre la Pâque. Le lendemain de la Pâque, c'est le premier jour des pains sans levain. Tout se tient exactement. Puis, là, il se passe quelque chose de vraiment frappant, de vraiment spécial, qui a encouragé Josué de façon particulière. Josué a vécu une expérience frappante, rassurante. On le voit au verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, et oui, il était face à la ville, là, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Josué alla vers lui et il lui dit, « Es-tu des nôtres ou si tu es un ennemi? » L'homme répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Le Christ s'est manifesté physiquement face à Josué avec une épée dans sa main. Il dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Et le Christ arrive toujours au bon moment pour nous aider à passer à travers les choses qu'on a à passer ou pour nous encourager. « J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Pourquoi le lieu était saint? Parce que le Christ était là. C'est tout simplement la même chose qui était arrivée à Moïse. Si vous voulez aller voir dans Exode 3, versets 5 et 6, même chose qui avait été dit à Moïse à un moment donné lorsqu'il était en face de l'Éternel. Bon, alors le Christ donc s'est manifesté directement à Josué pour lui indiquer qu'il allait lui donner la victoire. OK? C'est pour ça que je vous dis que c'est un événement encourageant pour lui. Et nous, c'est encourageant pour nous de savoir qu'on peut compter sur notre grand frère, le chef de l'armée de l'Éternel. Troisième point, c'est ce que le Christ dit à Josué, dans le fond, ici, on va le voir même un peu plus tard. « Suis-moi, fais exactement ce que je te dis. Suis-moi, fais exactement ce que je te dis. » C'est ça qu'on lui avait dit avant, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Alors, « Suis-moi, fais exactement ce que je te dis. » Et là, vient le temps de prendre cette grande ville, cette ville fortifiée. Josué, chapitre 6, on va lire les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Les 6 jours de la fête des pains sans levain. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, donc le 7e jour de la fête des pains sans levain, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Et là, ils ont pu entrer. Alors, voyez-vous, la victoire est venue par Dieu qui leur a dit exactement quoi faire. Mais c'est lui qui a fait tomber les murailles. Il fallait suivre les directives que le Christ donnait, y compris les interdictions que le Christ avait données, comme les interdictions qui nous sont données à nous aussi de ne pas transgresser les lois de façon volontaire. Alors, regardez ici le verset 17 à 19, les directives claires. Josué 6, verset 17 à 19. Ici, il dit, « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, ou l'aubergiste, si vous voulez, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. » parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de tout ce qui sera dévoué par interdit. Ils ne pouvaient rien prendre. Gardez-vous seulement de tout ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël, la nation au complète, en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Très, très clair, très, très clair comme directive. Mais, tout allait bien jusque-là. Mais il y a quelqu'un qui a décidé, lui, de transgresser volontairement et consciemment cet ordre-là, cette directive-là. On le voit dans Josué, chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit qu'ils ne pouvaient pas prendre. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Si vous lisez le récit plus loin, vous allez voir, cet homme-là a vu un beau manteau de Shinéar. Il a vu de l'or et de l'argent. Et ce qu'il a fait, il a pris ça, il l'a caché dans sa tente. Il l'a caché dans sa tente. Et il pensait que personne ne le saurait. Et il pensait que son geste n'aurait pas de conséquences. Ni pour lui, ni pour la nation. Mais ça a été le contraire. On le voit tout de suite après. Parce que ce qui s'est passé après ça, là, il venait de conquérir la grande ville de Jéricho. Il était enthousiasmé. Il n'y avait rien pour les arrêter, d'après eux. Parce que Dieu était avec eux, hein, jusque-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont envoyé 3000 soldats, les Israélites, pour attaquer une petite ville plus loin que Jéricho, la ville d'Aï. Une toute petite ville. Verset 5 de Josué 7. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple, les Israélites, furent consternés et perdit courage. Ça, ils ne s'attendaient pas à ça, pas du tout, là. Parce que ça avait tellement bien été pour prendre la grosse ville de Jéricho que là, la petite ville d'Aï, ça aurait été la même chose. Mais les données avaient changé, la donne avait changé complètement à ce moment-là. Gardez le verset 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi! » Parce que Josué, on voit par le contexte, priait Dieu le visage contre terre, puis il était découragé comme le peuple. L'Éternel dit à Josué, Josué comprenait pas, il savait pas ce qui était arrivé non plus. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi! Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Verset 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils ne pouvaient plus aller plus loin. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Voyez-vous, toute la nation était sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et là, ici, vous avez le quatrième élément qu'on doit comprendre dans ce qui arrive. C'est qu'un péché gardé consciemment et volontairement, comme cet homme-là avait fait, pas un péché que l'on travaille à éliminer, là, mais un péché, on sait que c'est une transgression, on le garde consciemment, volontairement. Alors, un péché gardé consciemment et volontairement, par choix, a un effet de contamination. C'est pour ça que Dieu ne peut pas laisser aller ça. Ça a un effet de contamination. Et automatiquement, ça entraîne une malédiction de la part de Dieu. Et la malédiction était là, parce qu'ils n'ont pas pu prendre cette petite ville-là. Même, ils se sont vus tuer plusieurs hommes. Et dans le cas présent ici, c'est que la nation d'Israël a perdu cette bataille-là qu'elle aurait dû remporter, s'il n'y avait pas eu cette transgression, cette malédiction au milieu d'eux. Achan et sa famille, lui, l'homme qui a commis cette faute-là consciemment, volontairement, lui a été tué avec toute sa famille. Dieu ne laisse pas ces choses-là au milieu de son peuple, des choses faites volontairement. Leçon pour ça, en ce qui concerne ça, une leçon pour nous, très importante, c'est que sur le plan individuel, si on garde un péché consciemment et volontairement, on ne peut pas continuer d'avancer. On peut penser qu'on avance, mais on n'avance pas. Parce que la malédiction, elle est sur nous. Et c'est la même chose sur le plan collectif. L'Église ne peut pas continuer d'avancer ni progresser en tolérant une faute, un péché dans l'Église qui est gardé consciemment et volontairement. L'Église doit intervenir comme la directive nous en est donnée par Dieu ici. Il faut que le péché, que la malédiction de ce péché soit enlevée pour que l'Église puisse continuer. C'est logique. C'est logique. Mais comme je vous disais tantôt, c'est pas une faute là qu'une personne essaie d'éliminer là. C'est une faute volontaire que la personne commet et garde ça dans sa vie. Alors, ça a des effets négatifs pour elle, ça l'empêche d'avancer spirituellement et ça a des effets négatifs sur toute l'Église. Quand cette malédiction-là a été enlevée d'Israël, là, ils ont eu du succès. Par rapport à la même petite ville, ils l'ont prise ensuite. Pourquoi? Parce que là, Dieu était avec eux. Dieu était revenu avec eux pour les soutenir. Josué, chapitre 8, on voit ça au verset 1. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple et sa ville et son pays. » Là, il allait avoir du succès. Alors ça a été une autre étape. Maintenant, les rois dans les autres villes alentour ont entendu parler de ça. Ce qu'ils ont fait, c'est que à la nouvelle de la chute de la ville d'Aï, les rois, au-delà du Jourdain, comme c'est écrit dans les textes, se sont mis ensemble pour combattre Israël. On le voit au chapitre 9 et 10. Je m'y reporterai pas, mais on voit là-dedans que Dieu, là, était avec Israël. Parce que Israël était avec son Dieu et cherchait à faire sa volonté. Ils ont réussi à passer à travers. Josué, chapitre 10, on va lire les versets 7 à 11. Josué monta de Gilgal, où il était, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, l'ensemble des rois qui s'étaient ligués pour les attaquer, là. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Encore un obstacle que Dieu anéantit par sa puissance, pour ses enfants, pour qu'ils atteignent la terre promise physique. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi, même s'il y a de la résistance. Comme il y a de la résistance dans les choses qu'on essaie d'éliminer de notre vie, ça se fait pas d'un coup, il y a de la résistance. Mais il dit, je vais être avec vous, il y a aucun d'eux qui ne tiendra devant toi, en bout de ligne. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Et juste dans cette petite phrase-là, il y a un grand encouragement ici. Parce qu'écoutez, il avait fait un long voyage là, à pied durant la nuit et ils ont livré combat tout de suite en arrivant. C'était des êtres humains physiques. Ils devaient avoir une grande fatigue. Mais quand Dieu est avec nous, il nous donne l'énergie dont nous avons besoin, selon les circonstances, pour accomplir ce que lui veut accomplir au moment précis de notre vie où on est rendu. C'est entre les lignes, mais on voit que c'est ça. Ils ont marché toute la nuit, puis en arrivant, ils ont remporté victoire. Grande intervention miraculeuse, n'est-ce pas tout? Puis Dieu manifeste sa souveraineté absolue tout de suite après, de façon encore plus frappante, en répondant à une prière de son serviteur Josué, qui avait pris à cœur d'accomplir à la lettre ce que Dieu lui avait demandé. C'est lui qui dit à la fin du livre de Josué, « Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Même si d'autres s'en vont, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. » Et c'est pour ça que l'Éternel a été avec lui. Et regardez ici, c'est pour ça que Dieu lui a répondu de façon aussi éclatante à la prière qu'il lui a adressée. Josué 10, versets 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel. C'est vraiment encourageant ça. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, voilà ce que Josué a dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » C'est ce qu'il a demandé à Dieu de faire. « Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et il dit, « Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis, jusqu'à la victoire, autrement dit. » Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alors, la grande horlogerie céleste s'était arrêtée à la prière du serviteur de Dieu et ils ont pu livrer bataille pour terminer ce combat-là. Dieu a manifesté sa souveraineté absolue sur sa création. C'est pas surprenant. Écoutez, c'est qui a créé le soleil, puis la lune, puis les étoiles? C'est Dieu. Est-ce que c'est plus dur pour lui d'arrêter le soleil à un moment donné et la lune que de les créer? Absolument pas. Il y a aucune différence pour lui. Alors, c'est ce qu'il a fait ici. C'est tellement encourageant. Regardez le verset 14. « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. » Où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, mais un homme qui avait tout son cœur pour servir l'Éternel, même s'il n'était pas parfait. Car l'Éternel combattait pour Israël. C'est pour ça que ça marchait. Et pour nous, même s'il y a des moments difficiles, des creux de vague, quand l'Éternel combat pour nous, l'issue est heureuse et on peut passer à travers. Cinquième point à se rappeler, à noter, une fois que la malédiction du péché est enlevée, une fois que la malédiction du péché est enlevée, aucun miracle n'est impossible, si grand soit-il. Aucun miracle n'est impossible de la part de Dieu s'il juge nécessaire de le faire, si grand soit-il. Dieu prend soin de ceux qui se soumettent à lui de tout cœur, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils veulent faire ce que Dieu leur demande de faire. Ça, c'est éclatant comme exemple, là. Et ça a été noté pour nous, pour notre encouragement. C'est le même Dieu qui a encore la même puissance qu'alors que nous avons le plaisir et l'honneur de servir. Verset 25 du même chapitre. Verset 25 du chapitre Josué 10. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. » Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Et quand on combat des ennemis, c'est pas confortable. Eux autres, c'était physiquement, là, des batailles physiques, c'était pas confortable. Nous, c'est des batailles spirituelles. C'est pas confortable non plus, puis on remporte pas les batailles tout de suite sur le champ lorsqu'on désire que ça se passe. Il y a des efforts à faire, il y a du temps à passer. Mais il y a une confiance qu'on doit garder envers Dieu pour que lui continue d'être avec nous et qu'il nous amène au résultat qu'il veut nous donner. Alors, le verset 25 ici, il dit, « Il va traiter vos ennemis pour que vous ayez la victoire. » Ça, ça veut dire ceci, en d'autres termes. Ce que Josué leur a dit, c'est ceci. « Travaillez à éliminer le péché et Dieu sera avec vous et il agira pour vous donner la victoire. Rien ne pourra vous arrêter de progresser vers le but, vers un succès total. » Ça, c'est pour nous aujourd'hui qu'on peut affirmer cette chose-là. Ça s'applique à nous maintenant. Travaillez à éliminer le péché et Dieu va agir en votre faveur. Et rien ne pourra vous arrêter de progresser vers le but, vers un succès total, vers le repos de Dieu dans son royaume. Comme Josué. Josué 11, allons plus loin. Josué 11 maintenant et le verset 23. Et là, on arrive au moment où Josué, plus tard dans le temps, après que la nation, avec l'aide de Dieu, a conquis tout le pays que Dieu leur donnait, ils ont combattu un certain nombre d'années pour soumettre le pays, et là, vient le temps de répartir les terres, des récompenses, si vous voulez. Alors, regardez le verset 23 de Josué 11. Josué s'empara donc de tout le pays. Alors, on voit ici que là, tout le pays a été conquis. Ils en ont la main haute dessus. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il avait dit, tu vas prendre le pays, je vais être avec toi, fais ce que je te dis et ça va se produire. Là, maintenant, on est rendu au moment où c'est réalisé. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, On sait que les 12 tribus ont eu leur portion et tout ça. Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos, sans guerre. Victoire vers le repos. C'est ça. Là, ils sont entrés vraiment dans le repos physique que Dieu leur avait promis. Pas avant, ils ont mené plein de batailles, ça a été difficile et tout ça, mais Dieu était avec eux. Et là, voici que c'était en paix. Et c'était la distribution des récompenses, la distribution des terres. C'est un peu un avant-goût de ce qui nous attend. C'est une image un peu de ce qui va nous arriver lorsque Dieu va nous donner des responsabilités dans le monde de demain pour prendre des territoires, s'en occuper, avoir soin des gens, les guérir, les encourager, leur enseigner les lois que nous, on aura appris et qu'on aura apprises à mettre en pratique. C'est formidable. Vous savez, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre cette situation-là et la nôtre. Alors, partage du territoire de la terre promise maintenant. Allons à Josué chapitre 14, un peu plus loin. Josué chapitre 14. Et là, on voit ce qui est arrivé à un des deux espions qui était allé longtemps auparavant, lorsque Israël s'était vu offert d'entrer en terre promise. Dieu avait envoyé 12 espions, vous vous rappelez? Il y a 10 des espions au retour qui avaient dit, on peut pas y aller. Alors que Dieu avait dit, allez voir le pays, puis je vous le donne après. Eux ont dit, non, il y a des géants, il y a trop de problèmes, on peut pas y aller. Il y a deux hommes qui ont été fidèles parmi les espions, Josué et Caleb. Ces deux-là sont encore là. Ils ont passé à travers toutes ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles. Parfait? Non. Fidèles? Oui. Ça, c'est la différence. Alors, on voit ces deux hommes-là qui sont là. Josué est encore en charge. C'est lui qui va distribuer les terres. Et là, Caleb lui rappelle, il dit, moi, il y a un territoire que j'aimerais avoir, que Dieu m'avait dit qu'il me donnerait. Regardez comment c'est beau. Alors, versets 6 à 10. Josué 14. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Kinésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa, quand on est allé explorer le pays? Tu sais ce que l'Éternel nous a promis? Il nous a promis des terres spéciales. J'étais âgé de 40 ans, alors. » Là, il est pas mal plus vieux, il s'est passé du temps. « J'étais âgé de 40 ans, alors, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. » Lui, Caleb et Josué, ont fait un rapport positif et ont dit, on peut prendre le pays, il y a des géants, il y a des problèmes, mais Dieu est avec nous, on y va. OK? Mais la nation, elle, s'était détournée complètement. Alors, continuons ce que Caleb dit à Josué. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, les 10 autres espions. » Mais moi, je suivis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. » Ça lui avait été annoncé d'avance, à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voix de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10, « Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, il m'a gardé en vie, comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Et il dit au verset 11, je suis encore vigoureux. Il dit, donne-moi les terres qui me sont dues et je vais m'en occuper. OK? Il est encore en pleine forme. Ça, cet événement-là qu'on voit ici, là, ça s'est passé 46 ans après la sortie d'Égypte. Ça s'est passé 46 ans après la sortie d'Égypte. Vous pourrez faire vos vérifications là-dessus. Parce que les 12 espions qui étaient allés explorer le pays sont allés là un an après la sortie d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte et un an après leur sortie, là, les 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays. Donc, il y a une année à ajouter là aux 45 ans dont Caleb parle ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est 46 ans après la sortie d'Égypte. Maintenant, je reviens à la conquête par Israël de la terre promise physique. Il leur a fallu 6 ans d'efforts pour conquérir et soumettre le pays promis. Dieu ne leur a pas donné sur un plateau d'argent. Il dit, vous allez avoir un travail à faire. Mais ça leur a pris 6 ans. Après qu'ils ont eu traversé le Jourdain, comme on a vu tantôt, là, qu'ils ont pris Jéricho et ce qui s'en est suivi, ça a pris 6 ans avant qu'ils soumettent le pays entier. Remarquez bien ceci. Ils sont entrés dans le repos promis par Dieu dans la terre promise physique. À quel moment? La septième année. OK? La septième année. Comme le jour 7 des pains sans levain. Dieu travaille avec le chiffre 7 qui veut dire quelque chose de complet. Alors, ils sont entrés dans le repos promis par Dieu, le repos de la terre promise physique, la septième année, au moment du partage du territoire. Josué, chapitre 23 maintenant. Allons un peu plus loin. Josué, chapitre 23. On va lire le verset 3. Ce que Josué leur dit. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Alors ici, Josué rappelle que toutes les victoires qu'ils ont eues, c'est par Dieu. Ça, faut jamais l'oublier. Et là-dedans aussi, il y a une leçon pour nous d'être vraiment reconnaissant au fur et à mesure qu'on vit les choses avec Dieu, de lui dire merci. Et d'exprimer aussi notre reconnaissance en s'appliquant à faire mieux jour après jour. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Vous êtes battu, bien sûr, mais c'est lui qui était en vous, qui vous donnait la force et qui faisait que les circonstances tournaient en votre faveur. C'est la même chose pour nous. Dans le fond, il faut se rappeler les victoires passées. J'en ai eu des victoires passées. J'en ai eu cette année. Je suis tellement content. Mais c'est intéressant qu'on se rappelle un peu les choses qu'on a réussi à vaincre ou les points dans notre vie qu'on a réussi à améliorer selon la loi de Dieu. C'est un encouragement pour nous. C'est un peu ça que Josué faisait avec eux ici. Il disait, regardez ce que l'Éternel vous a donné d'accomplir. Dans le fond, il leur disait en arrière-scène aussi, sous-entendu, continuez. Parce que le même Éternel sera avec vous si vous continuez à vouloir le servir, même si vous n'êtes pas parfait, mais que vous faites des efforts pour y arriver. Exactement. Faut voir les progrès qu'on fait pour s'encourager. Parce que c'est sûr, quand la semaine des pains sans levain arrive, puis durant la semaine des pains sans levain, on s'examine plus proche et plus profondément pour voir les choses qu'on a encore à changer. Mais faut pas se décourager avec ça non plus. Faut regarder le bilan positif, la page avec un plus, ce que vous avez réussi par la force de Dieu à changer. Là, on a l'énergie également pour continuer et pour être encouragé. Alors, Josué 23, verset 3, il dit ça, c'est Dieu qui a fait ça pour vous. Regardez maintenant à partir du verset 6. Verset 6, il leur donne une directive. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Lui avait reçu la même directive personnellement quand on a vu le chapitre 1 du livre de Josué. C'est ce qu'il a fait. Et il a vu la main de Dieu avec lui. Et il rappelle aux gens de faire ça pour que la main de Dieu soit avec eux également. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à gauche ni à droite. Verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations. Parce que comme nous, il y avait des nations qui n'étaient pas israélites autour, nous, c'est des nations qui ne sont pas converties. Alors il dit, ne vous mêlez pas avec ces nations autour qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Ne cherchez pas à imiter leur religion. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Ne servez pas les dieux étrangers. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Et sous-entendu, parce que vous l'avez fait, Dieu vous a abondamment béni. Faites la même chose, vous allez avoir le même résultat. C'est toujours pareil. C'est une relation de cause à effet. Faites la même chose, vous allez avoir les mêmes bénédictions. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, et que vous avez été bénis. Vous êtes maintenant en terre promise, physique, dans le repos que Dieu vous avait promis. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu résister. Il n'y a pas personne qui peut résister à Dieu, ni aucune circonstance. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Bien sûr, c'est une figure de style un peu, mais c'est pour montrer que les soldats de la nation d'Israël semaient la terreur et le bras était puissant et qu'un seul pouvait faire beaucoup de dommages dans les armées adverses. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Encore, c'est lui, encore. Comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos armes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Ça s'appliquait bien sûr à eux à ce moment-là. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, et ça a été le cas. Ils sont allés vers les autres nations, ils ont contracté des mariages avec d'autres nationalités, ce que Dieu avait défendu à Israël à l'époque. Et les gens d'Israël qui ont fait ça ont fini par adorer les dieux des conjoints qu'ils ont pris dans les autres nations, tout simplement. C'est ce qui se passe. Et il dit, ils seront comme un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et cet avertissement-là, malheureusement, il s'est réalisé parce que la nation d'Israël s'est détournée, comme je mentionnais au début du sermon. Mais le même principe demeure, le principe encourageant, que si on fait des efforts pour servir Dieu, Dieu est avec nous. Et on peut passer à travers des circonstances qu'on n'aurait pas pensé être capable d'affronter, ni même de traverser. Alors, le sixième point, il est expliqué dans le passage que je viens de vous donner ici, le sixième point, ne faire aucun compromis avec la société autour de nous. Ne faire aucun compromis avec la société autour de nous. Et là, par après, Josué s'est encore adressé à la nation avant de mourir cette fois-là. Et il a encore rappelé à la nation l'attitude essentielle qu'eux devaient avoir. Et ça rappelle l'attitude essentielle que nous, on doit avoir. Josué, chapitre 24, et le verset 14. Regardez, Josué 24, 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » C'est la base, là. Il redonne le principe de base. Il dit, « Craignez l'Éternel. » Craindre l'Éternel, c'est d'avoir un grand respect pour lui, une révérence pour lui, et de vouloir mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. C'est ça, aimer Dieu. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ça correspond à ce que l'apôtre Paul nous mentionne concernant la célébration de la fête des pains sans levain qui s'achève aujourd'hui. Vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 8. Je pense qu'on peut y aller. Ça vaut la peine. Ça se rapporte directement à ça. 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 8. On a vu ce passage-là durant la fête des pains sans levain. On en a parlé dans d'autres messages aussi. 1 Corinthiens 5, verset 8. Regardez ce que Paul dit aux membres de l'Église de Corinthe. Ça s'applique à nous. Les gens du Nouveau Testament. Célébrons donc la fête. Alors, c'est pas vrai que Paul n'observait pas les fêtes de Dieu. Il dit, célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Parce que le vieux levain, on l'a sorti de nos maisons physiquement durant la semaine. Mais le vieux levain spirituel, on a travaillé à l'identifier cette semaine. Puis à l'éliminer le plus possible. En même temps, à planifier de continuer d'éliminer au cours de l'année qui s'en vient. Alors, célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Le levain représente le péché, toutes les transgressions possibles des lois de Dieu, et ça représente la malice et la méchanceté humaine. Quand on n'a pas Dieu, on est porté vers ça. Il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, ce qu'on a mangé cette semaine. Les pains sans levain qui représentent la pureté, qui représentent la vérité, qui représentent le Christ lui-même, qui est parfait. Notre objectif, de lui ressembler, de le suivre. Alors, il dit, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, le septième point, mon dernier point, c'est ceci. S'appliquer à être intègre. S'appliquer à être intègre. Ça veut dire à être totalement à Dieu de plus en plus, là. Ne pas faire de compromis, pas faire à demi, pas être nonchalant, mais mettre tout notre cœur à travailler, à nous purifier, à faire sa volonté, à accomplir son œuvre et à préparer la libération qui approche pour toute l'humanité. Alors, septième point, s'appliquer à être intègre, à être entier avec Dieu dans ce qu'on fait et dans ce qu'on vit. Et fidèle. Ça rejoint un peu le même principe. C'est vraiment à tenir, à mettre en pratique ce qu'on doit mettre en pratique. Fidélité, on a promis fidélité à Dieu le jour où on a été baptisé. Et chaque fois qu'un ministre de Dieu baptise quelqu'un, il le met devant ses responsabilités du fait qu'il n'y a pas de retour possible. C'est un engagement définitif. Ou on s'en va vers la vie éternelle, et si ce n'est pas le cas, si on se détourne, on s'en va vers la destruction éternelle, vers l'étang de feu. C'est ce qu'il nous est montré, c'est ce que M. Weston nous rappelle de temps en temps. Une fois qu'on signe le contrat, c'est que c'est un ou l'autre. C'est pour ça qu'on prépare les gens avec soin, et on prend le temps de le faire pour que les gens sachent à quoi ils s'engagent et qu'ils fassent les choses qui ont besoin d'être faites pour tenir le coup. Seul, on n'est pas capable. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est capable de tenir le coup. Mais il n'y en a pas un d'entre nous qui ne peut pas tenir le coup par la puissance de Christ, le chef puissant de l'armée d'Éternel. C'est ça, qui est avec vous, qui est avec moi, qui est en vous et en moi, si on a été baptisé, qu'on a reçu le Saint-Esprit, et qui est autour de vous, avec vous, si vous êtes en train d'être appelé et d'aller vers le baptême, vers les autres étapes. Alors, voyez-vous, dans le livre de Josué, on a vu une partie inspirante de l'histoire d'Israël. Le moment où ils sont entrés en terre promise et les quelques années qu'ils ont mis, les 6 années qu'ils ont mis à soumettre le pays pour entrer la 7e année dans le vrai repos de Dieu alors qu'il n'y avait plus de guerre et qu'il y avait de l'abondance. Alors, on a vu une partie inspirante de l'histoire d'Israël. La puissance agissante de Dieu pour son peuple, lorsque son peuple se soumet à lui. Leurs nombreuses victoires par la force de Dieu, jusqu'à leur entrée dans le repos physique de la terre promise physique. Alors, comme vous avez vu, c'est un exemple très encourageant pour nous. On est appelé à lutter, bien sûr. C'est pas facile, mais la victoire est devant nous. Elle est possible par lui, pas par nous. Nous, il s'agit de persévérer. C'est pour ça que la Bible parle souvent de persévérer, de tenir, malgré les hauts, les bas, les reculs qu'on peut avoir à l'occasion. Revenir tout de suite. Il dit, attachez-vous à l'Éternel. Hein? Restez attachés au tronc de l'arbre. Très encourageant ce qu'on a vu. On est appelé, nous, à lutter avec son aide pour nous préparer à entrer dans le repos de la terre promise spirituelle, dans le royaume de Dieu qui approche de toute évidence, avec les signes qu'on voit se développer sur la scène mondiale. Et l'encouragement, il est là également. C'est notre désir, c'est notre rêve. Et je termine, vous pouvez aller voir, par un dernier verset qui résume bien par qui on peut vaincre. Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.